Bonjour, au fond une question pour Vincent. Moi il m'était apparu à la lecture des fanzines et à l'écoute des mixtapes de la région lilloise, et plus généralement du nord de la France, qu'il avait tout un courant certes minoritaire, qu'on appelle courant de rap politique ou engagé, etc., notamment présent autour des squats en région lilloise, qui portait une analyse qui, elle, n'avait pas varié au fil des temps, qui était plutôt une espèce de récupération et d'un étouffement de toute possibilité d'autonomie politique portée par les acteurs qui avaient déjà créé des structures autonomes de lieux du hip-hop. Je pense au Ch'ti d'Arras, mais je pense à d'autres endroits aussi, sur Tourcoing, ou, alors je prononce mal, Oisem. Je pense qu'il y avait un courant comme ça qui portait cette analyse de récupération et d'étouffement. Est-ce que tu peux en dire un mot si tu l'as abordé ou voilà, vu au cours de tes recherches?
Il y a deux versions. Il y a une version... comment dire ça? Il y a une version que j'appellerais une mystification ex post. Donc, si tu veux, je te donne celle-là. Et il y a une version que je trouve un peu plus scientifique. Oui, effectivement, le flow a poussé en lieu et place d'un ancien squat qui s'appelait le Ch'ti d'Arras, dans lequel il y avait des gens qui faisaient du rap. Il y a une compilation qui s'appelle 100% d'Arras, dans laquelle des punks se sont mis au rap pour l'occasion. Après, si on veut avoir un petit peu de rigueur scientifique, la mayonnaise est un petit peu montée trop vite, et de dire que la mairie a récupéré ce qui se faisait dans un squat, c'est faux à plus d'un titre. Premièrement, on n'était pas sur un squat hip-hop, mais plutôt un squat de punk dans lequel il y avait des rappeurs et des taggeurs. Deuxièmement, si tu fais référence à des articles comme ceux de Street Press par exemple, ou je sais plus lequel, le parallèle est beaucoup trop rapide à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu dans ce lieu des cours de graffiti, il n'y a jamais eu dans ce lieu des cours de danse, il n'y a jamais eu dans ce lieu on n'a jamais appris aux gens à rapper dans ce lieu. Il y avait des ateliers d'écriture certes, mais qui n'étaient pas axés au niveau du rap, mais plutôt au niveau de l'écriture en général et surtout de l'écriture collective. Moi je suis un peu remonté contre cette... comment dire ça ? Cette mystification, vraiment, de la part d'un mouvement radical, autonome, libertaire, Anna, on l'appelle comme on veut. Il faut savoir que quand même, le Ch'ti d'Arras, bon, ça a ouvert en 2006, expulsé fin 2007. Les gens qui récupèrent et qui facilitent une médiatisation de ce raccourci aujourd'hui, c'est des gens qui, pour la plupart, n'ont pas connu le lieu. Et je trouve ça un peu facile de dire que la mairie refait ce qui se faisait là-bas. Après, en termes de mise en politique publique, c'est un fait fort. Et si tu veux qu'on continue de parler sur cette scène hip-hop lilloise, elle existe tout le temps. Il y a toujours des lieux qui échappent aux institutions dans lesquelles s'épanouissent certaines formes de rap, certaines esthétiques. La danse, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et si on veut parler du graffiti, même si on déroge un peu au cadre de ce colloque, bah, il reste toujours l'espace public qui est le premier terrain de jeu des peintres à Lille comme ailleurs. Du coup, en fait, je ne sais pas quelle info tu as eue ou qu'est-ce que tu as lu, mais moi, je trouve qu'il faut quand même, au bout d'un moment, aussi remettre les choses à leur place, même si je peux avoir une sensibilité pour les scènes que tu évoques, où je trouve ça un peu facile de faire ce raccourci, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Si tu lis, ou si tu fais... tu peux remarquer, par exemple, qu'aucun des acteurs de ce squat-là n'ont été écoutés, interviewés, et dont les paroles ont été partagés sur le net ou sur des formats papier, qui en auraient très long à dire sur cette mystification ex post.
Bonjour, du coup ma question va aussi à toi. Si j'ai bien compris, le centre au niveau musical soutient les artistes hip-hop et s'ouvre depuis quelque temps à d'autres musiques, d'autres artistes. Et en fait, dans ce cadre-là, la question qui se pose, c'est à quel moment c'est de la musique hip-hop ou c'en est plus. Et en fait, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus sur le fonctionnement du flow à ce niveau-là. Est-ce que le flow va poser un cadre un petit peu en amont ou bien accueillir de manière très ouverte tous les artistes qui se disent hip-hop? Parce qu'en fait, la question en filigrane derrière ça, c'est est-ce que ce type de structure, finalement, participerait pas d'une certaine manière à proposer une définition de ce qu'est le hip-hop, ce qu'il n'est pas, de manière locale, et donc peut-être petit à petit, finalement, aussi influer sur les pratiques artistiques en elles-mêmes.
J'ai l'impression qu'Ismaël voulait répondre. Non ? Ok. Bien sûr que oui, il y a des... Et ça, c'est... J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le poids de la régie directe, ça influe aussi quant aux valeurs républicaines, puisque la mairie est une représentante de l'État, de droit, et qu'elle est attaquée frontalement des valeurs que la République française promeut et érige au titre à des titres universaux. Bien sûr que c'est compliqué. Par exemple, c'est très difficile de faire la promotion du tag vandal. C'est-à-dire que il faut que je parle de musique. Par exemple, les propos anti-flic ont leur place jusqu'à un certain point dans ce lieu. C'est-à-dire que l'appel au meurtre de flic, c'est clairement inenvisageable. Si un artiste en fait son fonds de commerce, j'entends par là qu'il a une sensibilité sur ce type de tuerie, il sera difficilement programmable dans un lieu comme celui-là. Donc oui, donc ça c'est une première forme d'esthétisation des pratiques. Une deuxième forme, un peu plus soft, je dirais, ça serait de, par exemple, promouvoir outre mesure une certaine forme de rap. C'est-à-dire que là, par exemple, à Lille, on a un groupe, comme il y en a un peu partout en région, sauf que nous, on a avec la couleur locale, accordéon, rap un peu musette, qui a son petit succès dans la région. J'ai fait tout l'organigramme au flow, du directeur au médiateur culturel, et au niveau des postes à direction, les gens me disent « bah oui, ce groupe-là, on le lâche pas, ils sont vraiment très bons, ils viennent au rap par les écoles de musique et pas par la contestation ou la subversion ». Donc ça, c'est une autre manière aussi de favoriser des esthétiques, et de fait, aux dépens d'autres esthétiques.
D'accord. Juste, ça serait bien, on a très peu de temps, que la conversation ne soit pas uniquement tournée vers le cas lillois.
Je suis d'accord.
Parce qu'on a deux autres interventions. Il y a une question. Voilà, parfait.
Merci. Merci pour vos présentations. C'était très intéressant. Du coup, j'ai une question à vous poser à tous les trois. Par rapport à l'institutionnalisation, vous avez parlé de différents processus, que ça vienne des artistes eux-mêmes, que ça soit un peu du marché, ou Vincent, tu as parlé plutôt des pouvoirs publics. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait sur la professionnalisation des artistes, puisque Vincent, tu évoquais tout à l'heure le fait que le flow était créé pour accompagner... les artistes, ou en tout cas les activistes, dans une démarche de professionnalisation, est-ce que effectivement les processus que vous décrivez permettent une ascension sociale, permettent de vivre de son art dans les différents contextes ou non ?
Question bien difficile. Pour ma part, je dirais que le contexte camerounais est un contexte assez, assez particulier où, il faut le dire, on a le droit de se battre pour vivre, premièrement. On n'est pas dans une société où on a beaucoup de facilité. Donc, quand on est préparé à se battre pour réussir. Ça, il faut le préciser. Et ajouter à ça, dans un environnement musical précarisé, informalisé, gangréné par des phénomènes comme la piraterie, les artistes spécifiquement et l'ensemble des acteurs ou des professionnels de la filière doivent doubler d'efforts pour espérer espérer vivre de leur création ou de leurs activités. Donc je pense que la situation camerounaise ne participe qu'à fabriquer des hommes et des femmes capables à affronter les situations telles que celles que j'ai décrites dans ce travail. Donc, l'environnement de travail, effectivement, participe de leur professionnalisation en quelque sorte. Et j'ai évoqué le cas du rappeur Stanley Eno qui, malgré cette morosité, malgré cette précarité, est arrivé donc à se hisser arrivé au devant de la scène. Donc, aujourd'hui, il est sollicité par les médias internationaux, il est sollicité par les politiques dans la dimension entrepreneuriale de son travail. Donc, en quelque sorte, il a tiré son épingle de jeu et voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. En tout cas, voilà la réponse que je peux apporter à votre question.
Merci. Qu'est-ce que ça fait sur la professionnalisation des artistes? Est-ce qu'ils vivent mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vivent mieux. Mais en revanche, ce qu'on observe avec le syndicat national des musiques urbaines au Cameroun, c'est qu'en fait, c'est un révélateur de différents changements. Il y a d'abord un changement au niveau de ce que c'est que faire la musique. Il y a un changement générationnel. Il y a un changement même au niveau de l'économie. Alors, le CINAMUR essaye d'encadrer les artistes en leur proposant des formations et des masterclass, par exemple. Ils mettent à leur disposition des managers, ils mettent à leur disposition des contrats préétablis pour que, entre griffes, disent-ils, ils ne se fassent pas flouer. Alors, ce que ça fait, effectivement, c'est que ça les met, d'une certaine façon, sur un sentier de la professionnalisation. Mais bon, l'autre chose, c'est que ces aînés, ou alors les leaders du CINAMUR, je pense qu'ils ne sont pas vus comme légitimes, parce que les exemples qu'ils citent, c'est des self-made men qui ont réussi précisément à connaître cet environnement, souvent après un premier succès, et ils ont pu durer. C'est-à-dire qu'ils sont plus accompagnés, fonctionnant avec les multinationales, faisant des scènes internationales, encadrés. Et ce que le CINAMUR essaye de faire, c'est promettre à ses adhérents un futur similaire à celui-là, en leur disant, écoutez, le succès de ceux-là, ils l'ont calqué parce qu'ils étaient encadrés professionnellement, ils avaient ça. Donc, ça met en ordre une nouvelle dynamique, il y a des injonctions et des formats, un retour par exemple avec le discours nostalgique à ce que faire le bon rap signifie par opposition à ce que faire le mauvais rap signifie, parce qu'effectivement il y a des artistes qui ont eu du succès et qui après n'ont pas pu le rééditer, donc voilà ce que ça fait.
Moi j'aurais voulu vous poser une question à tous les deux, déjà d'une part pour avoir une clarification, parce que je n'ai pas complètement compris la situation, et après pour vous poser une question. Est-ce que j'ai bien compris? Parce que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer vos textes avant, et puis j'ai confronté avec ce que avec vos communications. Alors ce que j'ai compris, c'est que l'État donc sous-traite aux aînés donc la gestion de sociétés de droits d'auteur, donc qui recueille et redistribue les droits d'auteur, et que ces aînés ne distribuent pas de manière équitable les droits d'auteur à tous les musiciens en général et aux rappeurs en particulier. Et donc une partie des problèmes, donc il y a une contestation de la part des cadets par rapport aux aînés, ils ne reçoivent pas leur juste part des droits d'auteur. Et une des raisons, si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas de système objectif de classement des œuvres. Comment est-ce que moi ma question c'est d'abord comment est-ce que les œuvres sont répertoriées? Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est classée comme œuvre? Et qui juge déjà de la manière de répertorier une œuvre pour que les droits soient recueillis d'abord et distribués d'autre part. Première question. Deuxième question, dans la deuxième communication, toi, Nicanor, tu nous expliques à quel point les nouvelles technologies viennent bouleverser ce système et que ça permet quand même une autonomisation par rapport à cette dépendance. Alors, est-ce que ça permet une autonomisation complète ou est-ce que la dépendance, elle demeure quand même? Et est-ce qu'il y a dans quelle mesure est-ce qu'il y a une marge de manœuvre ou pas? La dépendance, est-ce qu'elle est toujours là? Et est-ce que les droits d'auteur continuent tout de même à jouer une est-ce qu'elle continue à avoir un rôle important ou pas? Ou est-ce qu'on est dans une marche vers la libération de ce système des droits d'auteur ou pas? Voilà, donc j'ai deux questions en fait par rapport à ça.
Merci pour ces questions. Je vais répondre, je vais te laisser poursuivre. Donc, est-ce que l'autonomisation est complète ou pas?
Est-ce qu'il y a un processus de libération enfin?
Ok, oui. Donc, je dois d'abord préciser qu'on est dans un contexte où les politiques publiques n'ont pas de lisibilité. Ce n'est pas abus de langage quand on parle des politiques publiques. Les spécialistes de la question parleront de tout sauf des politiques publiques en direction de la culture en général et des industries culturelles en particulier. On est dans un environnement où les politiques ont foutu le camp au début des années 90, où on a vu l'émergence d'une musique très contestataire. Et c'est là que les rappeurs même sont en difficulté. Dans l'article qui a été publié dans Politique africaine, il démontre bien que le rap a eu du mal à s'imposer parce qu'on était dans un environnement où les rappeurs qui se sont fait connaître sous d'autres cieux par leur engagement politique, c'est le cas au Burkina Faso, c'est le cas au Gabon, etc., etc., les rappeurs ont trouvé sur le marché musical et du disque des musiques qui... Il y a un article très intéressant qui s'appelle « La démocratie en chanson ». Donc c'est des universitaires qui ont pu montrer comment le Makossa, le Benskin, qui sont les rythmes locaux, se sont emparés de la question politique et ont occupé l'espace. Donc au début des années 90, quand les premiers rappeurs majeurs veulent s'imposer, le terrain est pratiquement occupé. Donc la parole contestataire du rap est quasiment inaudible. Donc à partir des années 90, l'État tourne en quelque sorte le dos aux arts en général. Il n'y a pas que la musique, hein. Le cinéma a eu beaucoup de mal. Le FODIC, le fonds spécialisé, spécifique dédié à l'aide à la production cinématographique, ce fonds a disparu quand l'État s'est rendu compte que son pouvoir était menacé par des gens qui en réalité bénéficiaient de son aide pour exister. Donc il y a cet environnement là qu'il faut décrire pour montrer qu'en réalité il n'y a, en tout cas à partir du début des années 90, il n'y a pas eu de véritable politique en direction des industries culturelles. Du coup, les acteurs des différentes filières se sont en quelque sorte débrouillés tout seuls. En fait, il y a une aide d'un milliard de francs CFA qui en euros ne représente quasiment rien, qui a été allouée à l'aide à l'art, à la production artistique. Mais comment ça se fait? Soit il y a une politique qui est claire, qui dit que quand un disque est sur le marché, on a droit à ci, si les radios diffusent tant de fois, etc. Donc, comme ça se fait ailleurs. Si le fonds est dédié à toutes les disciplines de la culture et que quatre messieurs s'asseyent dans un bureau et décident de qui a droit à combien, parce que tel a perdu sa mère, l'autre a perdu son épouse avant-hier, on décide de lui donner 200 euros pour l'enterrement, pour acheter le cercueil. On n'est pas là dans les politiques publiques, on est là dans de la sorcellerie. En tout cas, ça ressemble à de la sorcellerie. Donc, dans un environnement pareil, s'il y avait les policiers, je suis sûr que on était au Cameroun, les policiers allaient m'arrêter après. Donc, on est dans un environnement où les politiques publiques ont peur du monde de l'art. Donc, ils sont, quand je parle d'informalité structurante, l'État est complice. l'État fait exprès de ne pas lutter contre la piraterie, parce que si le secteur se structure, son pouvoir est en difficulté. Lui, il a parlé d'un contexte semi-autoritaire, d'un contexte autoritaire, d'un contexte post-autoritaire, mais on a du mal à décrire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, il y a le mot autoritaire qui revient. Donc, dans ce contexte, vous comprenez que l'État n'a aucun intérêt à ce que il y ait un vrai Booba ou, je ne sais pas moi, un vrai Jay-Z, parce que c'est ses intérêts qui seraient menacés. Voilà, de façon ramassée, dit de façon désorganisée, je ne sais pas moi, non structurée, voilà. Quelques éléments de réponse à votre question, en espérant que, Marcelin, tu complètes.
J'ai été très sensible il y a un peu plus d'une dizaine d'années à un ouvrage qui avait été publié par deux chercheurs africanistes et dont le titre était « L'Afrique est partie du désordre comme instrument politique ». Et donc, pour le cas des droits d'auteur que vous évoquiez, la société camerounaise en a connu plus de 7 sociétés de droits d'auteur. Et à chaque fois, la paume de discorde a été la répartition. Et le passif...
La définition même...
J'en viens. Le passif a été à chaque fois brûlé. Le passif a été, c'est-à-dire qu'une naît, elle meurt, le passif brûle, on en crée une autre. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, un artiste, ce qu'il fait, c'est qu'il va se faire enregistrer auprès d'une société qui dispose d'un agrément délivré par le ministère des Arts et de la Culture. C'est ce qui lui confère le statut d'artiste. C'est-à-dire que pour qu'il soit reconnu comme artiste, il y a des démarches légales qu'il organise, qu'il doit suivre, autant pour moi. Et après cela, les fonds principalement viennent d'une part de la subvention accordée par le chef de l'État, qui est de 1 milliard, sauf que les 1 milliard ne sont pas que pour les artistes. Ça va en grande partie à la culture, un peu de cinéma, un peu de... Voilà. D'un autre côté, il y a des mécanismes de prélèvement des sous auprès des sociétés multinationales de téléphonie mobile, auprès des sociétés brassicoles, auprès des câbles opérateurs et auprès des tenanciers de bars. Ce qui est utile à dire, c'est que entre les normes légales et les normes pratiques, même si aucune société n'entretient une correspondance de 100%, quand même les écarts au Cameroun sont forts. C'est-à-dire que entre ce qui est dit, ce qui doit être fait et ce qui est fait réellement, il y a souvent de gros écarts. Et donc, quand cette subvention arrive, parce que la certitude qu'on a, c'est qu'elle va arriver, pour aller collecter ce qui se joue chez les multinationales, ce qui se joue chez les auprès des télévisions privées, auprès des télévisions publiques, c'est difficile. Les certitudes qu'on a, c'est qu'elle viendra. L'année budgétaire s'ouvre en janvier, alors elle peut venir en décembre, mais elle viendra. Maintenant, les chaînes de télévision publiques, elles, on prélève 1500 francs CFA, environ, 1500 francs CFA, 3 euros, chez chaque fonctionnaire pour alimenter un fonds qui est dit de la redevance audiovisuelle, à l'intérieur desquels on calcule un pourcentage. Donc tout ça est un peu flou. Et ce n'est pas un flou qui n'a pas de raison d'être. C'est-à-dire que l'hypothèse qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il y a ceci, non, ce n'est pas ça. Et dans les entretiens, ce qui revient, c'est une vision que le politique a de la musique, de la chose culturelle, qui est perçue comme un amusement, comme une distraction.
La question portait sur la répartition.
Oui, la répartition, donc, une fois qu'elle est faite, ce sont les artistes des genres majeurs qui ont la préscience dans le bureau qui est composé par le ministère. Il se trouve que ces artistes, et c'est là où je parlais d'une disposition qui met à mal les acteurs du hip-hop, parce qu'ils considèrent que dans cette répartition, La plus grande part doit être réservée aux artistes qui évoluent dans des registres traditionnels, c'est-à-dire le Bikutsi, le Makusa. C'est comme ça qu'ils perçoivent la chose.
Non, mais la question, c'est la définition de qui a droit. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est complètement arbitraire.
C'est-à-dire c'est excessif. Elle est volontairement ambiguë, puisqu'elle est opératoire. Elle est volontairement ambiguë. Et cette ambiguïté ne veut pas dire une absence de définition. Ça veut dire une définition que la commission qui siège peut définir. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il n'y a pas, comme disaient les juristes, un vide juridique. Il y a des normes, après, bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est celles-là qui sont opératoires. Du coup, il y a des artistes qui ont chanté depuis les années 70, qui se retrouvent avec peut-être 10 000 euros, et les rappeurs qui ont le plus grand de succès, qui sont joués en boîte de nuit, qui sont joués dans les radios, certains n'ont même pas 25 euros. Après, on regarde qui est influent, qui est plus proche d'eux.
Donc la question, c'est, est-ce que ça... Bon, donc il y a un arbitraire dans la répartition des droits d'auteur. Est-ce que ça, c'est un obstacle à la professionnalisation pour suivre sur... ou pas?
Est-ce que c'est un obstacle à la professionnalisation? En un certain sens, oui. Alors, une des solutions que le syndicat propose, c'est de mettre sur pied un logiciel afin justement de au niveau des, on appelle ça comment, des régies dans des chaînes de télé, de radio, tout ça, de savoir quel titre a été diffusé, à quelle proportion, pour faire un décompte. Mais ça, c'est la solution que eux ils vendent. C'est pas l'ignorance de la possibilité. Il y a des tas d'artistes là-bas qui ont travaillé à la SACEM, qui ont travaillé ailleurs. Ce n'est pas l'ignorance de comment se gère le droit d'auteur qui justifie le flou. C'est pas ça. C'est plutôt une volonté de ne pas clarifier des choses parce que, démographiquement, les musiques urbaines, aujourd'hui, on compte peut-être 3000 artistes. Et s'il faut faire la répartition, c'est clair, les artistes des genres traditionnels seront largués. Et donc, c'est pour cela que le Synamur va muter quelque part en un groupe de pression. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas, à ce niveau-là, débattre sur des critères objectifs. On refuse l'informatique, traitement rapide de l'information, transparence, vérification et tout. Ça ne peut pas aller parce que, précisément, ça met sur la touche des artistes qui ont été héroïsés, qui ont contribué à... Voilà, quoi. Donc, c'est ça le problème de fond. C'est complexe.
Et la SIAMUR demande une clarification de ça ou pas?
Si, justement. Le logiciel est une solution. Et la création d'un logiciel, c'est ce qu'il propose, par exemple, pour améliorer la gouvernance. Moi, je trouve que l'entrée du SINAMUR, il ne mesure pas la complexité du problème. Parce que l'outil est manipulé par des hommes, il peut être pollué. Voilà, c'est ça le problème. Les autres ne veulent pas. Que c'est pour cela que finalement le Synamur, qui s'est pensé en 2015 comme un syndicat, le texte qui est sorti il y a un an et demi ne reconnaît que trois syndicats. Un pour les musiques, un pour le cinéma, il y a un autre là. Et donc du coup le Synamur va se diluer dans des sociétés existantes et prendre un pourcentage afin de... Et les jeunes disaient très bien qu'ils vont se faire manger, ils vont attendre qu'on débloque le riz. Après, ils vont vivre leur retraite. Ils ne sont pas dupes. C'est ça aussi. Jean-François Bayard disait « La société camerounaise est une scène théâtrale où chacun joue son rôle, conscient précisément que ça ne va pas toujours dans le sens de ce qu'on attend. »
Je crois qu'on a le temps pour une ou deux questions encore.
Oui, une dernière question.
Bonjour. Merci d'abord tous les trois pour votre présentation, c'était très intéressant. Ma question s'adresse plus particulièrement à Jean Marcellin, mais peut-être que Nicanor peut y répondre. J'aurais voulu savoir quelle est l'attitude des pouvoirs publics, et notamment des élus que vous rencontrez, dans les revendications du Synamur. C'est-à-dire, est-ce qu'ils réagissent favorablement à vos demandes quand vous dites qu'il y a un déficit d'infrastructure, par exemple? Est-ce qu'ils font quelque chose? Est-ce qu'il y a une action? Et de manière plus générale, quelle est la considération qu'ont les pouvoirs publics pour la scène hip-hop et les musiques urbaines au Cameroun?
Alors, le regard que les alors, ça tombe bien parce que j'ai discuté en 2015 avec le responsable du Centre culturel camerounais, qui a longtemps œuvré dans l'entrepreneuriat culturel en lien avec le hip-hop. Alors, la vision que les politiques ont quand on discute avec eux, et lui, il est un interlocuteur bien placé parce que le Centre culturel camerounais est placé sous l'autorité du ministère des Arts et de la Culture. Ce qu'il dit, c'est que, et la dimension comparative est très importante quand on discute avec à la fois les politiques, on fait toujours la comparaison avec le Sénégal et avec le Nigeria voisin, et le Burkina aussi. L'idée, c'est de dire que si là-bas, on peut parler d'institutionnalisation, c'est-à-dire que le mot est excessif, parce que la vision que le politique a du hip-hop et du rap en particulier est une vision essentiellement péjorative. Au-delà du hip-hop, c'est la culture en général. C'est-à-dire que j'étais en train d'imaginer un texte sur ce qu'on pourrait appeler les indicateurs de régression. La Banque mondiale, on met toujours les indicateurs de croissance. Mais là, on peut bien réfléchir sur les indicateurs de régression. Le politique est resté très stable, c'est-à-dire que on a des octogénaires qui gèrent le pouvoir, des septuagénaires, là où les dynamiques sociales, elles ont bougé. Et l'idée, c'est que la conception qu'eux, ils ont de l'art, c'est pas quelque chose de professionnel, c'est un amusement, c'est une distraction. Et du coup, même les scènes, elles n'existent pas, c'est-à-dire que les scènes institutionnalisées, le CCC est une exception, d'autant même que le Cinamur se plaint du prix honoré de l'allocation de la salle, 100 000 francs CFA par mois, par séance. Donc, c'est pour dire que les politiques... Mais pour comprendre ce regard péjoratif des politiques, il faut remonter à la genèse du hip-hop. Alors, contrairement à ce que j'ai lu sur d'autres contextes, au Cameroun, ça a été très, très, très violent. Violent au sens où ce sont des fils aisés, comme disait Anna ce matin, qui, la plupart... ont grandi pour le contexte francophone en France. Il y a eu la loi Pasqua, je pense c'est des années 93-94, et certains sont rentrés et ils sont allés dans des lycées français. Et là, ils nous ont mis à reproduire ce qui se faisait ici. Il y avait on brûlait, on cassait, ça bagarrait. Au niveau des bagarres, il faut mettre ça en lien avec la rivalité au MPSG ou les Lakers Celtics. Ça, c'était parce que les anglophones, eux, ils étaient connectés US. Donc, c'est ce qui s'est joué. Ajouter à ça le fait qu'il y a eu des blessés. Personne n'est mort, heureusement, mais il y a eu des blessés. Et 90-97, c'est pour ceux qui ont été fans de cinéma comme moi, c'est que les héros, c'était ceux de la guerre de la guerre froide. C'était Chuck Norris, c'était Sylvester Stallone. C'était eux qui étaient héroïsés. Donc le rap est venu avec ça. Ce qui fait que la charge violente, mais alors la violente, elle était très présente au niveau des lycées, au niveau des quartiers, au niveau du sport. Et du coup, ces rappeurs du Cinamur, ces leaders, et c'est en grande partie aussi pourquoi ils sont illégitimes. Parce qu'on considère que c'est eux qui ont assis ce stigmate, comme disait un enquêté, ils sont à la fois la part belle et la part maudite du rap. Donc ceux-là, quand par exemple ils vont revendiquer, ils disent toujours que, attention, je peux faire le voyou. Donc ça c'est quelque chose qui, et les cadets le disent, ils disent que ceux-là, vraiment, quand on va négocier, ils peuvent être dégamés à tout moment. Parce que c'est la génération des pionniers et les cadets, la génération intermédiaire, est mieux à même de rendre compte. Aujourd'hui, ils se blanchissent, c'est des gens mariés. Les cadets ont vu comment est-ce qu'ils ont réagi, ils ont saccagé des trucs. C'est pourquoi, quelque part, ils ne jurent pas du succès du Cinamur. Mais en même temps, il n'y a que le réseau de ces aînés, parce qu'ils ont 40 ans, pour la plupart 43, 44 ans, leur public a vieilli avec eux et leur public occupe aussi des positions. Malheureusement encore, c'est ce même public-là, quand tu parles des politiques, c'est ce public-là qui joue sur ce stigmate. Par exemple, au cours des concerts, exemple très simple, quand Peace Square vient au Cameroun, Booba est venu au Cameroun, La Fune est venu au Cameroun, Soprano peut avoir 50 millions de francs CFA comme argent. Mais ceux qui font la scène locale ne sont même pas à 10 euros. À 10 euros, c'est-à-dire, c'était dire ce qui se passe, c'est-à-dire que comment comprendre et expliquer ça? Alors quand je discute avec les rappeurs, une des idées c'est que c'est prestigieux de côtoyer ces gars, c'est ceci, sauf qu'on est en 2011 quand par exemple Soprano arrive, et donc pourtant des sous ont été décaissés, mais celui qui gère le spectacle dit il ne peut pas concevoir qu'un rappeur ait par exemple 1000 euros. qui est son ancien camarade de classe. Donc c'est complexe. Et je ne veux pas que ce soit autrement. C'est bien comme c'est complexe comme ça, parce que ça fait mentir la théorie, souvent. Et c'est bien aussi de faire mentir la théorie. Il n'y aura rien de lisse. Je suis encore en recherche. Merci.
J'aimerais juste ajouter que la démission de l'État a participé à une sorte de privatisation de l'action publique culturelle. Tu parles de l'arrivée de Soprano et d'un cachet de 50 millions de francs. Il faut préciser que les multinationales de la communication, MTN qui est sud-africain, et Orange Cameroun, donc qui est la filiale d'Orange de France Télécom, donc c'est eux très souvent, en l'absence d'une politique publique lisible, occupent la place que devraient occuper les pouvoirs publics dans, par exemple, la construction des institutions culturelles, des salles. J'en profite pour préciser, pour rappeler que, pour ceux qui ne le savent pas, Bolloré, le groupe Bolloré a construit une salle de cinéma à Yaoundé. Donc, Bolloré qui fait dans le bois et le chemin de fer, ben, c'est quand même curieux que Bolloré arrive à construire les salles de cinéma au Cameroun. Donc, bref, c'est une sorte de privatisation de l'action publique culturelle qui fait en sorte que les artistes qui viennent de la scène internationale arrivent avec beaucoup d'assurance et ils sont présentés comme étant des vedettes. Et les vedettes, c'est des cachets assez intéressants, c'est des cachets assez consistants. Donc, rien n'est fait au niveau local pour une réelle structuration, une réelle organisation, une réelle dynamisation des industries culturelles de façon globale.
On va arrêter là. Vincent, tu voulais dire quelque chose avant qu'on clôt la séance?
Peut-être sur la professionnalisation, puisque la question était posée à nous trois. Il y a quand même, moi, une question que je me pose, et ma recherche servira à amener des éléments de réponse. Est-ce que finalement, professionnaliser ou accompagner, mettre en place un processus de professionnalisation pour des gens qui se destinent à, c'est-à-dire faire carrière, c'est-à-dire à trouver une profession dans un univers artistique, et là on parle de musique, est-ce que c'est pas non plus un peu un écran de fumée? Dans le sens où on sait tous que le marché du rap, le marché le succès d'une vente de disques, donc on parle d'un succès commercial et pas d'un succès d'estime, est quand même ultra limité et extrêmement restreint. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est du 1 pour 1000, c'est du 1 pour 2000. Des rappeurs, il y en a partout en France. Il y en a dans tous les quartiers, riches, pauvres, blancs ou métissés. Et du coup, mettre en place et mettre le paquet en termes d'action publique sur un accompagnement à la professionnalisation, moi j'ai l'impression qu'en tout cas sur le terrain lillois, ça bouge un peu, puisque d'une vente du projet qui tablait sur l'excellence dans les pratiques et la professionnalisation, l'accompagnement aux pratiques amateurs commence à trouver sa place, puisque c'est une nouvelle directive de l'élu à la culture à Lille. Donc maintenant, on n'est plus sur une exclusivité de ceux qui se destinent à se professionnaliser dans le rap ou le beatmaking ou le DJing, n'importe. Mais du coup, est-ce que c'est pas non plus un peu un... Est-ce qu'il n'y a pas une carence dans la réflexion sur « ok, on va les accompagner, mais vers quoi ?» tout en sachant que finalement, il y a très très peu de place sur ce marché-là. Alors après, l'idée, c'est peut-être de dire « on donne un outil en plus pour permettre de... » Mais je me demande s'il ne faudrait pas plutôt insister sur les pratiques amateurs. Merci.
Merci beaucoup, merci à tous trois et merci à la salle. C'est la fin de cette séance. À tout à l'heure à la place.